le Livrodrome à Saint-Just-en-Chaussée. En direct toute la journée sur Graffiti.
Le Livrodrome en direct sur les ondes de Graffiti 94.9, toujours en compagnie de nos jeunes reporters du lycée, du collège Louise Michel. Le lycée, ce sera dans 2 ans. Et on est en compagnie d'un des auteurs, on est avec Karim Wafi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors je crois que vous êtes, on est presque collègues parce que vous êtes à la base journaliste, si je dis pas de bêtises.
Je suis journaliste, je suis même encore journaliste, j'ai fait une école de journaliste et je réalise des reportages en télé.
Alors justement, on va en parler avec Émilie qui va vous interviewer, mais avant ça, on va parler un petit peu des stands, puisqu'il y a la boîte à tatouages qui est juste à côté de nous. Donc d'abord, il y a un jeu de questions-réponses pour ensuite avoir son animal totem. Et j'ai vu que sur votre bras, vous avez eu un animal totem. Vous avez quel animal? C'est le renard?
J'ai le renard. En fait, j'ai pas fait le quiz parce qu'il y a un monde dingue, mais le doudou de mon fils, c'est un renard. Donc en hommage, je me suis fait un petit renard.
Et vous savez pas à quoi ça correspond vous avez pas pris la carte, non?
Non, du tout. J'ai vraiment fait par rapport au doudou de mon fils.
D'accord, très bien. Émilie, on te laisse mener cette interview. Est-ce que tu es prête?
Oui.
Allons-y.
Bonjour Karim Wafi, vous êtes journaliste, mais vous avez sorti un premier livre pour la jeunesse, Être un garçon. De quoi parle votre livre?
En fait, ce livre, Être garçon, c'est une bande dessinée qui aborde la masculinité. C'est quoi être un homme à notre époque? Comment on se voit en tant qu'homme? En société, face aux autres, face à soi-même, est-ce que je dois être fort, est-ce que je dois être puissant, est-ce que je dois écraser les autres, ou au contraire, est-ce que je dois faire preuve plus de bienveillance et d'écoute envers les autres. Donc c'était vraiment questionner la place des hommes en société et toutes les attitudes aussi bien négatives qu'ils peuvent avoir et toutes les attitudes positives qu'ils pourraient avoir pour un peu progresser et mieux se comporter.
Il me semble que c'était également, vous faites des reportages sur ce sujet-là, c'est un peu de vos thèmes de prédilection. Comment vous êtes arrivé sur ce sujet? C'est quoi le parcours pour arriver à ça?
En fait, toutes ces questions liées à la domination masculine, le privilège masculin et la masculinité, elles ont commencé à émerger en moi lorsque j'ai eu ma fille. Donc maintenant il y a un peu plus de 10 ans, et quand elle est rentrée en crèche, j'ai vu l'espace qui était réservé aux filles et l'espace réservé qui était aux garçons. Les filles étaient dans un coin avec leurs petites jupes et leurs couettes, elles jouaient à la poupée, à la dinette et c'est tout, et les garçons ils avaient le droit absolument tout l'espace. Et donc ça m'a fait réfléchir, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu cette question de domination masculine était réelle. Et quelques années après, quand mon fils est né, avec tous les problèmes qu'il peut avoir en société, les viols, les agressions, j'avais pas envie que mon fils devienne un agresseur. Et donc ma fille, je voulais qu'elle soit libre, mon fils, je voulais pas qu'il soit problématique. Donc j'ai essayé de voir de quelle manière je pouvais changer, je pouvais mieux les éduquer, en tout cas à mon échelle. Et lié à mon travail de journalisme, ça m'a poussé à commencer à écrire des livres.
À quel public s'adresse votre BD ?
Ma bande dessinée Être garçon, elle s'adresse aux adolescents. En tout cas, à partir de la 6e. À partir de la 6e, tout le monde peut la lire, cette BD. Mais on peut aussi bien la lire qu'on ait 16 ans, 22 ans ou 33 ans. Mais c'est vrai à partir de l'adolescence.
Vous avez animé un atelier ce matin sur le stand de la machine à écrire. C'est quoi être un garçon? Qu'avez-vous fait pendant cet atelier?
Durant à peu près 1h, 1h15, j'ai parlé avec les collégiens sur la place des hommes, sur ce que les hommes pouvaient faire de négatif et comment on pouvait changer. Je les ai aussi questionnés sur leur rôle pour savoir s'ils avaient déjà été problématiques ou principalement s'ils avaient déjà été témoins d'actes problématiques. Et la plupart ont dit oui. Et donc on a essayé de voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les hommes soient moins dangereux et en étant moins dangereux, forcément meilleurs en société et plus sécurisants pour les femmes.
Est-ce qu'il y a une différence entre les générations? Est-ce que là, les jeunes, par rapport à des quarantenaires, trentenaires, est-ce qu'il y a vraiment eu un gap qui est passé? On parle des hommes déconstruits. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive dans des jeunes qui sont déconstruits encore?
Quand on parle avec des chercheurs ou quand on fait ou quand on analyse des situations, pour rigoler, on aime dire que les plus de 50 ans, c'est fini pour eux. Les hommes de plus de 50 ans, c'est fini pour eux. Ils sont perdus et ils ne changeront jamais. C'est vrai qu'il y a eu une évolution positive qui n'est pas encore dingue, qui n'est pas encore flagrante. Mais il y a une vraie évolution positive si on prend par rapport aux minorités, si on prend par rapport aux causes LGBT, si on prend par rapport à l'acceptation des femmes et de leur place. Il y a eu des avancées. Donc oui, ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 30 ans... Il y a eu des avancées, c'est pas encore fameux, c'est pas encore extraordinaire, mais c'est mieux qu'il y a 20 ans.
Donc quand on entend une génération woke, donc une génération éveillée, hein, parce que le terme woke à la base c'était être éveillé, c'est vraiment le cas? Les jeunes commencent à être un peu éveillés ou seulement commencent seulement un petit peu à ouvrir les yeux?
C'est vrai, oui et non. Les dernières études ont prouvé que par exemple les femmes de 16 ans, les femmes de 18 ans, les femmes de 22 ans étaient extrêmement éveillées. Elles étaient très impliquées dans les luttes, elles se battaient. Elles se battaient aussi bien pour l'écologie, pour les luttes antiracistes, pour la cause LGBT. Elles étaient très investies. En contrepartie, les hommes, c'est-à-dire les jeunes hommes, eux sont plus fermés. Ils vont plus se rapprocher des causes masculinistes. Et donc ça, c'est embêtant. Donc d'un côté, les femmes, ça avance bien en termes de liberté, d'envie et de désir de s'émanciper. De l'autre côté, les hommes, ça se renferme.
Vous avez réalisé beaucoup de reportages pour la télévision. Pourquoi avez-vous fait le choix de sortir un livre ?
J'ai fait une école de journalisme, mais malgré tout, il y a ce côté un peu arrogant et prétentieux de l'écrit. L'écrit, les mots, le journaliste, ça commence par les mots. Et sortir un livre, c'est un peu une consécration. C'est un peu pour flatter notre ego, faut pas se mentir. Et quand on a sorti un livre, c'est vrai qu'on rentre dans une autre case. Mais surtout, moi, c'est un peu bête à dire, mais j'avais des choses à dire. Vraiment, j'avais des choses à dire et j'avais envie de les partager. Au départ, c'était dans mon coin, seul, dans mon ordi. Et en parlant à une éditrice, elle m'a dit « Ben non, c'est bien, faudrait que ça sorte. » Mais longtemps, c'est resté dans mon coin. J'ai 42 ans et j'ai commencé à travailler sur les livres il y a à peine 4 ans. Durant des années, c'est resté juste dans mon coin parce que je ne me voyais pas les partager. Je me disais que ce n'était pas assez intéressant. Mais oui, c'est vrai qu'un livre, c'est une consécration professionnelle, en tout cas.
Aujourd'hui, vous êtes journaliste ou écrivain ?
Professionnellement, je suis journaliste parce que c'est le journaliste qui me permet de vivre. Intellectuellement, je suis écrivain. Je prends un plaisir fou, un plaisir monstre. Vous n'avez pas une idée comme je suis épanoui lorsque j'écris, lorsque je fais les corrections, lorsque les éditrices m'envoient les améliorations apportées. Je prends un plaisir intellectuel qui est monstre. Mais le problème de l'édition, c'est que ça ne paye pas, ça ne paye pas du tout. Donc pour vivre et pouvoir m'occuper de ma famille, donc de mes enfants, c'est le journalisme encore.
Là, les rencontres avec les scolaires, avec les jeunes, c'est important d'accompagner le livre, d'avoir une médiation, plutôt que de leur mettre le livre tout simplement sur une étale ou peut-être sur les réseaux.
C'est primordial d'aller à la rencontre du public, ne serait-ce que pour échanger, pour en discuter. Même si on n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas possible, mais au moins de créer une discussion. À partir du moment où on crée une discussion, c'est toujours positif. C'est toujours positif parce qu'on va avancer, on va se renseigner. Et surtout, c'est bien de rencontrer l'autre. Moi, si je fais ce travail de journaliste, d'auteur, c'est pour parler avec les gens. C'est pour parler avec les gens, c'est pour écouter leurs idées, c'est pour avoir des retours. Donc, c'est ce que j'aime et c'est ce dont j'ai besoin.
Pouvez-vous décrire le style de votre livre, car elle n'est pas construite comme une bande dessinée classique ?
En fait, ce livre, il est sorti aux éditions du Ricochet. Il fait partie d'une collection et ils ont un style qui est assez particulier. C'est un chapitre bande dessinée et à la fin de ce chapitre bande dessinée, une partie documentaire. Donc un scénario, un documentaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une thématique. Par exemple, la première thématique, c'est les émotions. Donc j'ai imaginé tout un scénario, toute une bande dessinée sur les émotions. Ça se passe au collège. Et à la fin de ce premier chapitre, il y a un documentaire où je vais détailler tout ce qui tourne autour des émotions. Le deuxième chapitre, c'est sur l'homosexualité. C'est un camarade au collège qui découvre qu'il est homosexuel et qui se demande comment il va pouvoir se construire. Eh bien, à la fin du deuxième chapitre, je vais détailler les causes LGBT, les luttes LGBT, les droits, les discriminations. Donc c'est vrai que c'est bande dessinée reliée à une partie documentaire qui vient agrémenter tout ce qui a été dit auparavant.
Est-ce que du coup, dans l'avenir, une BD vraiment BD pure, parce que là, il y a quand même un côté journalistique, hein, avec l'histoire du chapitrage, l'histoire de la documentation, peut-être même dans l'écriture, comment ça s'est déroulé l'écriture ? Il y a eu une recherche, une confrontation, des enquêtes, des rencontres avec des gens ?
Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'échanges. Chaque fois que j'écrivais le livre, en tout cas quand je travaillais dessus, toutes les quelques pages, je les faisais lire à des collégiens autour de moi pour leur dire est-ce qu'on utilise ces mots, est-ce que ça c'est plausible, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est envisageable. Et ils me faisaient leur retour. J'échangeais aussi beaucoup avec l'éditrice sur le style, mais ça a été un ping-pong constant. Mais principalement, on l'a fait lire à des collégiens autour de nous qui nous donnaient leur avis. Et ça, c'était... ça n'avait pas de prix parce qu'on avait la matière première en face de nous qui nous disait « Mais non, mais là, tu rêves. » « Ah non, ça, c'est tout à fait vrai, donc ça, c'était bien. »
Est-ce que tout à l'heure je parlais des réseaux sociaux, est-ce qu'il pourrait y avoir un pendant numérique? Parce que c'est vrai que je trouve que le bouquin il se prête assez à avoir peut-être une appli ou avoir voilà, un chapitrage pour Snapchat, TikTok et compagnie.
Je sais que la maison d'édition a été contactée par un service numérique. Ça, après, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais pour le futur, je pense que toutes les bandes dessinées ont leur place en numérique pour le lire sur une tablette, sur TikTok ou Snapchat, avec un chapitrage. Mais c'est vrai que les adolescents et les jeunes adultes et même tout le monde maintenant sont sur leur smartphone. Ça serait intéressant maintenant de penser à ces livres en numérique pour pouvoir toucher un public plus large.
C'est quoi votre actualité? Est-ce qu'il y a des documentaires qu'on va pouvoir bientôt voir à la télé? Des bouquins, des...
Actuellement, je réalise un documentaire pour M6 sur la violence chez les jeunes, avec toutes les histoires qu'on a connues malheureusement ces derniers temps. Donc comprendre d'où vient cette violence, comment on peut l'endiguer, comment on peut la bloquer, mais surtout la réponse des institutions. Donc je suis en tournage. Là, je suis beaucoup en tournage cette période. Je rentre en montage au mois de septembre. Donc on pourra le voir sur M6 au mois d'octobre. Donc ça, c'est mon gros projet. Et je bosse sur une nouvelle BD avec une nouvelle maison d'édition, mais ça, c'est encore secret.
Ok, ce sera une BD plus artistique, moins journalistique?
Une BD qui sera au contraire plus journalistique, mais beaucoup plus adulte.
Ok, et du coup, quand vous partez en équipe, en reportage, c'est plutôt... vous êtes tout seul avec la caméra, vous êtes un JRI ou vous êtes accompagné par quelqu'un qui prend l'image, un preneur de son?
Non, moi, quand je pars en tournage, je suis vraiment nul en technique. Donc, je pars avec un caméraman ou une caméraman et un ingé son. Donc, par exemple, demain, je serai à Strasbourg avec un ingé son et un caméraman.
Merci beaucoup, merci Émilie également pour l'interview, merci pour cette interview. On rappelle les références du livre?
Oui.
Je ne l'ai pas devant les yeux.
Je vous l'ai donné, c'est Être garçon, une masculinité à contre-courant aux éditions du Ricochet, écrit par moi-même Karim Wafi et illustré par Mick Anquet.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.